faisait entre 3 et 4 millions de chiffre d'affaires dans ce temps-là. Puis on s'était dit, on va amener ça à 10 millions en 5 ans. 5 ans plus tard, on a doublé notre objectif et le nombre de personnes. Écoute, après 2 ans et demi, en fait, on l'a atteint, tu sais, notre objectif. Puis là, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait, tu sais? Fait que là, on a remis un chiffre sur le tableau, puis on a foncé tête baissée pour l'atteindre.
Mon nom est Antoine Gagné et je vous souhaite la bienvenue au 66e épisode du podcast Hypercroissance. Avant d'écouter l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à vous abonner sur Spotify, Apple Podcasts ou sur votre plateforme de balado préférée afin d'être notifié des nouveaux épisodes qui arrivent tous les lundis matin. Également, l'épisode d'aujourd'hui est présenté et produit par J7 Media, une agence de publicité Facebook. En gérant fièrement près de 2 millions de dollars de publicité Facebook par mois, J7 Media aide depuis 8 ans maintenant les entreprises à accélérer leur croissance via l'entremise de la publicité Facebook et Instagram. Si vous désirez être au courant des meilleures pratiques dans l'industrie en ce qui concerne la pub Facebook, je vous invite à écouter le podcast Social Selling qui est mis en ligne tous les mercredis matin. L'équipe de J7 Media vous livre chaque semaine des études de cas réelles qui vont pouvoir vous aider à améliorer les performances de vos campagnes. Croître par acquisition est un sujet que peu d'entrepreneurs que j'ai pu rencontrer maîtrisent à la perfection. Maintenant, je voulais absolument avoir plus d'informations sur le sujet. J'ai donc décidé de me tourner vers un expert en la matière qui, dans les 7 dernières années, a complété 7 acquisitions. Vincent Gottschall, président de Logian, une entreprise TI en forte croissance installée en Montréal, nous explique aujourd'hui les bienfaits d'acheter des entreprises afin de passer en hypercroissance. Vincent nous raconte donc aujourd'hui ses bons et ses moins bons coups reliés à ces 7 acquisitions. Sans plus attendre, ma discussion avec Vincent Gottschall. Vincent Gottschall, tu es chef de la direction dans l'entreprise québécoise Logian, une organisation qui se spécialise en solutions TI. Depuis ton arrivée dans la compagnie en 2014, tu as été capable de la faire croître en amenant Logian à plus d'une centaine d'employés au moment où on se parle. Cette croissance est venue entre autres d'acquisitions stratégiques que vous avez faites dans les dernières années. Vincent Gottschall, merci beaucoup d'être sur le podcast Hypercroissance aujourd'hui.
Hey, salut Antoine, merci beaucoup. Merci de m'accueillir, c'est gentil.
Vincent, je l'ai dit en intro, la croissance par acquisition a été votre cheval de bataille au cours des dernières années chez Logian. C'est d'ailleurs ce qu'on va essayer de décortiquer ensemble aujourd'hui. Mais avant d'en parler, peux-tu nous faire un bref historique de ta carrière en affaires? J'ai cru voir qu'avant Logian, tu as occupé des postes d'administrateur chez Télé-Québec, la Fondation du cancer du sein et également d'autres entreprises bien connues.
Oui, absolument. En fait, moi, j'ai débuté ma carrière, là, je suis comptable agréé de formation, fait que j'ai commencé ma carrière chez KPMG en 2005, en faisant ce qu'on appelle nous les heures, un peu dans le jargon, là. J'ai commencé en faisant mes heures pour avoir droit à mon titre de comptable agréé. Après ça, j'ai fait le saut en entreprise, là, chez une entreprise qui s'appelait dans le temps Marketel, qui est une agence de publicité, là, qui comptait des gros clients, puis moi, j'ai occupé des rôles de direction des finances là-bas. Fait que vraiment dans un contexte plus financier, mes premiers rôles dans ma carrière. Puis rapidement, je suis tombé dans les opérations. Tu sais, j'ai commencé à gérer un peu des trucs dans le studio là-bas. Après ça, j'ai joint une organisation qui était vraiment une petite agence qui se partait, qui s'appelait GLG, dans le milieu du healthcare. Fait que j'ai aidé à bâtir cette agence-là avec 2 autres personnes là, qui étaient des anciens de BCP et publicistes. Et on partait ça il y a quelques années déjà. Puis après ça, j'ai fait le saut effectivement chez Logian en 2014. Puis ce que tu disais en introduction, ben c'est des rôles d'administrateur, là, donc je siège sur certains conseils d'administration. J'ai siégé longtemps à la Fondation du cancer du sein. Puis là, je suis à Sablon également, une belle fondation qui s'occupe des jeunes, et à Télé-Québec.
C'est intéressant être sur différents conseils d'administration. On le disait un petit peu avant l'enregistrement. Ça te donne une vue 360 des organisations totalement distinctes dans lesquelles tu opères au jour le jour, là.
Ouais, exactement. C'est complètement différent, tu sais. Puis c'est ça que je trouve intéressant d'avoir une perspective de gouvernance, rester à haut niveau, pas se mettre les mains dans les opérations, tu sais, comme gestionnaire ou entrepreneur, des fois on a le goût d'aller un peu plus loin, mais là il faut savoir se retenir puis faire confiance aussi à des équipes. Je suis chanceux parce que les conseils d'administration sur lesquels je siège ont des équipes de gestion hors pair, honnêtement là. Tu sais, Télé-Québec, c'est une organisation formidable. Et ça rend notre rôle facile, je te dirais, mais en même temps, c'est un beau défi d'accompagner ces organisations-là dans la poursuite des activités, puis aussi leur croissance. Tu sais, c'est le thème un peu du podcast, donc on va en parler, mais Une fondation, ça a le droit de croître aussi, puis d'organiser une mission qui aide de plus en plus de gens. Puis Télé-Québec, c'est un peu la même chose également. Fait que effectivement, c'est des mandats super intéressants, super motivants dans d'autres industries, là.
Puis j'imagine, est-ce que ça te donne un petit peu des idées là, quand tu sors de ces différents conseils-là, de choses que tu pourrais initier chez Logian? J'imagine que oui, non?
Ouais, exact. T'sais, on a un regard à l'interne, fait que c'est des insights sur des entreprises ou des organisations qui vivent certaines situations. Puis des fois, tu te dis, ben chez nous, comment je gérerais ça? T'sais, puis ça t'amène à te poser des questions, à réfléchir. Puis des fois, c'est de s'inspirer également de ce qu'ils font dans plus petit ou plus gros, puis regarder comment on peut mettre ça en place chez nous, effectivement.
Intéressant. Bon, Vincent, je l'ai dit un petit peu en intro, tu es arrivé chez Logian en 2014. Si ma mémoire est bonne, l'organisation a été fondée au début des années 2000. J'aimerais que tu nous dises, quand tu es arrivé dans la compagnie, est-ce que tu avais des mandats spécifiques au départ? Est-ce que peut-être l'organisation avait déjà le vent dans les voiles, une certaine croissance, et là, on cherchait un gestionnaire, un administrateur qui pouvait peut-être amener l'entreprise à un autre niveau? Est-ce que c'était ça ton rôle au départ qu'on est allé te chercher?
Oui, clairement. En fait, tu sais, l'organisation a été fondée en 2000 par mon associé actuel, là, Jean-François Rioux. Jean-François, c'est un ingénieur de formation, puis il a amené l'organisation. Quand je l'ai joint, on était 25-30 personnes. Aujourd'hui, on est tout près de 175 personnes chez Logian. Donc, l'objectif qu'on s'était fixé dans le temps, puis je dis « on » parce qu'on pense que lui avait un désir, tu sais, de faire grandir l'organisation, puis il cherchait quelqu'un pour l'accompagner là-dedans. Moi, je venais du milieu, oui, finance, mais j'étais dans le milieu des agences de publicité depuis un petit bout, puis j'avais le goût de tomber plus dans la livraison. Tu sais, plus dans en agence, on a plein d'idées. Puis là, on a en TI plein de talents pour réaliser ces idées-là. Tu sais, souvent en agence, je trouvais qu'on avait beaucoup d'idées, mais on les menait pas à terme nécessairement. Alors que là, on avait vraiment la chance de bâtir de quoi de concret avec nos clients. Fait que pour revenir à la question, tu sais, l'objectif clair qu'on s'était fixé, on s'était dit, on faisait, entre 3 et 4 millions de chiffres d'affaires dans ce temps-là. Puis on s'était dit, on va amener ça à 10 millions en 5 ans. Tu sais, 5 ans plus tard, on a doublé notre objectif et le nombre de personnes. Fait que, écoute, après 2 ans et demi, en fait, on l'a atteint, tu sais, notre objectif. Puis là, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait, tu sais? Fait que là, on a remis un chiffre sur le tableau, puis on a foncé tête baissée pour l'atteindre.
Fait que, corrige-moi si je me trompe, là, mais pour être certain, tu arrives en 2014, l'entreprise, comme tu le dis, 3-4 millions de chiffre d'affaires. 5 ans plus tard, en 2019, vous avez atteint plus de 20 millions de chiffre d'affaires. Vous avez doublé l'objectif que vous étiez donné.
On s'approche du 20 millions là, tranquillement. Fait que effectivement, on est on track pour notre pour ce deuxième objectif qu'on s'était fixé, effectivement.
Félicitations, c'est des chiffres qui sont très très beaux, très intéressants à savoir. Puis je suis curieux, tu es arrivé en 2014. Comment que ça se passe une dynamique avec un président fondateur qui a quand même fait un sacré bon boulot en amenant l'entreprise à 25-30 employés? C'est pas toutes les entreprises qui sont capables de faire ça. Toi, t'arrives, est-ce que dès le départ, tu avais mis ça clair que tu voulais être actionnaire? Est-ce que c'est quelque chose d'avantage qui s'est gagné à travers le temps? Comment s'installe une dynamique comme ça quand un administrateur externe rentre et devient littéralement le pilote du bateau?
Ouais, ben en fait, au début, tu sais, je pense c'est une relation de confiance. Tu sais, comme dans tout, je suis pas arrivé, tu sais, personne débarque quelque part en disant, écoute, moi, je veux ça, sans rien prouver. Tu sais, moi, personnellement, je crois pas à ça. Tu sais, fait qu'il faut être patient, faut faire ses preuves. Fait qu'avec Jean-François, l'entente était assez simple, c'est que j'avais déjà signifié mon intérêt à, écoute, si j'aide à bâtir l'organisation, c'est normal qu'il y en ait une portion qui m'appartienne ou qui me revienne en quelque part, mais on va fonctionner avec un certain timeline, puis écoute, je vais prendre, on avait fonctionné avec un système d'options d'achat d'actions, rendu un certain milestone, il allait vester tout ça. Fait que tu sais, bref, ça pour dire que c'était mis au clair, mais en même temps, c'était pas day one, j'arrive puis j'obtiens des actions, tu sais, c'est, ben, prouve-moi ce que t'as dans le ventre un peu, là, puis aide-moi à scaler, puis y a une part qui te reviendra. Puis c'est ce qui est arrivé, tu sais, ça s'est fait assez rapidement, 2 ans plus tard environ. On s'est entendu sur de quoi qui était même au-delà de ce que j'avais au début. Puis ça a super bien été, là, tu sais, je veux dire, la confiance s'est bâtie. Jean-François, c'est un ingénieur de formation, comme je le disais tantôt. Fait que lui amenait aussi quelque chose que moi, j'ai pas. Tu sais, moi, je suis un gars de finance, je suis un gars de plus d'affaires. puis d'opération. Fait que je rentrais avec ma casquette CFO, CEO, là. C'est des gros titres pour une petite boîte de 25 personnes, là. Mais disons que je m'occupais des finances au day-to-day, puis du monde, tu sais, des opérations, puis de comment ça allait, comment on allait livrer nos mandats. Fait que, en fait, c'est pas mal tous les chapeaux, là. Je pense que quand t'es dans ces tailles-là, tu joues un petit peu tous les rôles. Je faisais des ventes, des pitchs, tout ça. Mais officiellement, j'étais CFO, CEO. Fait que, tu sais, je prenais ce rôle-là, puis Jean-François, lui, m'amenait tout le volet TI, tu sais. Fait qu'il m'a appris beaucoup, beaucoup, tu sais, sur le milieu que je connaissais à peine. Fait que ça a été super intéressant et enrichissant pour moi aussi.
Donc, Vincent, je le disais en intro, vous avez voulu passer en hypercroissance, mais vous l'avez fait d'une manière que je trouve excessivement intelligente et fascinante. D'ailleurs, c'est une des techniques que je commence à utiliser chez nous et que je trouve très rapide. Vous avez fait de la croissance par acquisition, mais vous l'avez fait 8 fois. Vous avez fait 8 transactions depuis la fondation de Logien au début des années 2000 et tu me disais que tu es derrière 7 d'entre elles. Moi, j'aimerais que tu me dises un petit peu c'est quoi la genèse de se dire nous, on va passer notre entreprise à un autre niveau, mais on va le faire en faisant des acquisitions connexes de des joueurs qui sont autour de nous.
Ouais, ben écoute, nous, tu sais, Antoine, nous, on est dans un milieu, dans le fond, un peu comme toi, je pense, là, tu sais, on offre des services, donc c'est un modèle d'affaires qui est quand même assez traditionnel, donc pour scaler puis croître rapidement, pour moi, c'est indéniable que ça passait par des acquisitions, tu sais. On regarde souvent, ou je vois beaucoup de joueurs qui regardent pour bâtir eux-mêmes des nouvelles offres de services. Puis, tu sais, quand tu te mets en tête que tu veux bâtir une nouvelle offre de service, tu te dis, OK, il faut que je trouve des talents, il faut que je les forme, il faut que j'offre ce nouveau service-là à mes clients, donc je trouve des nouveaux clients. Fait qu'il faut trouver les deux bouts, tu sais. Pour moi, c'était aussi avec un background financier, c'était comme un no-brainer de dire, ben, tu sais, nous, on a un core, là, un noyau chez Logien qui est du software engineering, donc ce qu'on fait, c'est du code, tu sais. Puis, moi, ce que je cherchais à faire, puis ce qu'on cherche encore à faire, c'est notre objectif chez Logien, c'est d'être un one-stop shop en software engineering. T'sais. Donc, un one-stop shop, mais qui bâtit des relations avec nos clients. Puis ça peut paraître cliché, mais c'est très vrai. T'sais, c'est ce qu'on veut faire, c'est d'accompagner, conseiller, t'sais, autant au niveau stratégique que technologique, nos clients, rentrer dans la livraison, puis maintenir leur écosystème technologique par la suite. Fait que, t'sais, pour ce faire, nous, on partait de notre noyau, comme je disais, qui ont bâti du code. Là, je voulais greffer des offres de services qui font en sorte que les clients vont rester avec nous pour une multitude de services, puis qu'on bâtit une relation vraiment de one-stop shop. Là. Ils arrivent chez nous, puis je suis capable de les aider sur une multitude d'aspects. Fait que, le lien avec les acquisitions, bien, c'était de dire, écoute, en 2014, je ne sais pas si tu es familier un peu avec le génie logiciel, là, puis le développement de logiciels, mais on avait... Comme je disais, 25 personnes à peu près, on avait la moitié de ça, c'était des ingénieurs qui étaient soit des développeurs Java ou des développeurs .NET, puis c'était à peu près ça. Fait qu'on s'est dit, ben si on commence à regarder pour faire des acquisitions pour acheter 1, 2, 3 boîtes qui offrent des services complémentaires, ben, on va pouvoir offrir ces clients-là, ces services-là, notamment à nos clients. On va également pouvoir offrir les services qu'on avait à leurs clients. Il y a du cross-selling qui se fait. Puis c'est un accélérateur pour tout le monde. Fait que la genèse du pourquoi, je te dirais, parce que c'était comme pour moi la seule option. C'était le seul moyen de scaler Logien rapidement.
Sentais-tu à ce moment-là que dans le marché spécifique que tu œuvrais, tu avais une certaine consolidation? Parce que souvent, on va vouloir partir en acquisition, comme tu le dis, aller acheter des entreprises distinctes qui offrent un service distinct au nôtre, mais au même client. Comme ça, on est capable peut-être de grossir la facture moyenne qu'on va avoir à ces différents clients-là. Et des fois, ça arrive à cause d'une certaine consolidation dans le marché. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais vu ou tu t'es simplement dit que ça allait juste être plus rapide de grandir en faisant ces acquisitions-là?
Ben, faut se remettre en 2014. Là, moi, j'arrive dans un marché que je surveillais de loin, mais tu sais, j'étais pas dedans au day-to-day. Fait que je peux pas te prétendre que c'était quelque chose que je ressentais dans le marché, c'était vraiment quelque chose que nous, on voulait faire. T'sais. Puis nous, on s'était dit, nous, là, chez Logien, on va croître par acquisition, puis ça va être ça notre stratégie. Je dis croître par acquisition, il ne faut pas mettre de côté qu'on a une croissance organique aussi. Puis elle est importante, puis je pense qu'il y a une valorisation de notre offre de service de base aussi. qui est year over year, là, qui croît de 20 à 30 % naturellement. Après ça, il y a tout le volet acquisition, effectivement, qui nous a donné un push là, dans les dernières années. Mais je te dirais que là, en ce moment, ça se voit. Là. Tu sais, le marché de la technologie, des techs, autant en produits, en SaaS, là, tu sais, le nombre de startups qui ont levé, qui ont des produits, des plateformes qui vendent, c'est fou. Tu sais, le marché est vraiment, vraiment pratiquement hyperactif, là, mais aussi en service, tu sais, énormément. Mm-hmm. Fait qu'il y a beaucoup de transactions, il y a beaucoup, beaucoup d'intérêts. D'outre-mer, là, je te dirais, des groupes européens qui veulent avoir un pied à terre au Canada pour ouvrir les États-Unis après. Ça se voit beaucoup. Puis il y a des groupes américains également qui viennent regarder les talents locaux. Je pense que je vais juste ouvrir une parenthèse, mais tu sais, tout ce qui s'est passé dans l'écosystème d'intelligence artificielle a été bon pour les talents locaux. Tu sais, oui. Peu importe l'actualité puis tout ce qui se passe, là, je pense quand même que ça serait une mentir de dire qu'on en a pas profité. T'sais. Je pense que Montréal est une plaque tournante puis est bien vu à l'international de par ce qui s'est passé avec la scène AI à Montréal. Puis nous, on en a profité par la base, c'est clair.
Puis, je voudrais revenir un petit peu à ces différentes acquisitions-là. Je l'ai dit, il y en a 8. Il y en a les deux plus récentes, corrige-moi si je me trompe, je vois qu'il y a eu une acquisition qui a été faite 2019, Poudre Noire, qui est une agence numérique basée à Montréal, et Abilis PI, qui est un intégrateur spécialisé dans l'industrie des TI. Donc, ouais. Ça, c'est deux d'entre elles. Je pense que c'est les deux plus récentes. Mais moi, j'aimerais que tu me dises peut-être l'histoire et la vision derrière une de ces 7-là que tu as été derrière. Est-ce qu'il y en a une là, que tu te rappelles qui a peut-être été plus complexe, plus intéressante, plus fascinante, qui aurait des anecdotes là, croustillantes?
Ben, écoute, la première de toutes, là, c'est celle qu'on s'est plantée royalement, puis je me suis planté royalement, puis c'est celle qui m'a appris à faire les autres mieux, tu sais, ou différemment, je vais dire. Fait que, en 2014, j'arrive chez Logian, on commence à regarder, comme je disais, on avait des développeurs back-end, le .net, Java. On regardait aussi que tout ce qui se passait du côté du consumer. T'sais, on était très B2B. Nous, on travaille sur des processus d'affaires, des plateformes d'affaires. Là, on regarde le volet B2C. Puis on se dit, OK, il y a de la mobilité partout. T'sais, tout le monde a son cellulaire puis commence à l'utiliser dans le milieu des affaires. Fait que moi, je me dis, il faut acheter une business qui offre du développement mobile. T'sais. Fait que là, on commence à regarder à gauche et à droite puis on rencontre Antoine Hazard, qui est un ami aujourd'hui encore, là, qui a une belle plateforme, et on achète son entreprise dans le temps qui s'appelait Mobilogy, tu sais, qui avait une dizaine de personnes, puis belle business, beau client, écoute, puis on se dit go for it, on achète ça. Pourquoi c'est anecdotique? C'est que, tu sais, moi, j'étais un peu innocent, là, je pense, là-dedans, parce que je voyais beaucoup de chiffres, puis je me disais, OK, make sense. T'sais, c'est un bon deal pour le géant. Ça amène les talents qu'on veut. J'ai passé énormément de temps à focusser sur le avant la transaction, puis très peu de temps sur le après la transaction. Quand je te dis je me suis planté, c'est qu'au final, avoir leur faire, je leur ferais ce deal-là. C'est un bon deal. Puis tout le monde est content. Puis Antoine est un chic type. Puis on a continué à collaborer sur des trucs à gauche et à droite. Mais on a mal intégré les gens, tu sais. Puis dans une transaction, ça, en service, ça reste que ce qui est le plus important, c'est les humains derrière la transaction, tu sais. T'as beau avoir un beau buy-up puis payer un prix qui est intéressant, on s'en fout aussi. Si le lendemain matin, t'es intègre mal puis tout le monde quitte, tu viens de perdre 50 % de ton deal, tu sais. Mm-hmm. Fait que c'est là où, puis c'est ce qui s'est passé, en fait, hein, pour répondre à la question, là, c'est ce qui s'est passé. On a perdu beaucoup de monde, tu sais. On pensait que, je pense que c'était vraiment une ignorance, là, tout simplement, du comment vendre notre salade le géant, puis comment, tu sais, what's in it for them, là? C'est quoi que les employés allaient chercher quand ils allaient arriver chez le géant, puis pourquoi c'était bénéfique pour eux? On avait comme oublié de leur raconter ce bout-là de l'histoire. Nous, on le savait, mais j'avais fait un mauvais job à raconter ça, puis à vendre Logian aux employés de Mobilogy, qui eux se voyaient vraiment comme une start-up, puis c'était plus petit, puis là, ils arrivaient on n'était pas très gros, mais ils arrivaient dans un écosystème un petit peu plus gros, puis là, ils se disaient, ouais, ça nous ressemble moins, puis ils quittent un par un, puis tu te dis, Colin, moi, j'ai fait la transaction pour avoir une dizaine de développeurs mobiles, puis là, en reste deux 6 mois plus tard. Fait que ça a été une transaction qui a été difficile sur cet aspect-là, mais ça nous a amené plein de clients. On a fait du recrutement par la bande. On a continué à collaborer avec certaines personnes qui étaient des anciennes Mobilogies. Et finalement, ben, on a bâti notre offre mobile, puis au final, on a greffé ça au noyau de Logien. On a surtout obtenu un peu plus d'insight sur comment bien faire la prochaine. Puis préparer la prochaine, puis dire que je vais arrêter de passer du temps en amont sur les chiffres, mais je vais aller rencontrer les employés dès que je peux. Et je vais leur faire comprendre c'est quoi la vision qu'on a pour eux. Puis pourquoi c'est intéressant de joindre Logien. C'est ce qui nous a permis de faire les suivantes, je te dirais.
Puis parle-nous donc également de suivantes que tu es fier, que là tu t'es dit, là on va parler aux gens, on va bien leur expliquer, puis bien entendu j'imagine une transaction que tu as été très satisfait des chiffres au total. Peux-tu nous parler peut-être d'une histoire qui a finalement été un petit peu plus rose?
Dans les sept, puis ça peut paraître beaucoup les sept, là il y en a trois là-dedans, c'est surtout des transactions de Goodwill. T'sais, on a acheté des clients, une liste de clientèle, on a fait des asset deals, là, donc de l'achat d'actifs. Puis, en 2018, on a fait une transaction avec la compagnie New One, qui était une division un peu dans la même lignée que le mobile. On se dit, OK, qu'est-ce qui commence à être pertinent pour nos clients? Puis, quelle offre de service qu'on doit vraiment ajouter pour être un one-stop shop? Puis, on s'est tourné vers toute la IoT. Les objets connectés, avoir des développeurs en embarqué. On a fait une transaction avec Luc Fillon, qui était le président fondateur de New One. Encore une quinzaine de personnes spécialisées dans les objets connectés. Ça a été une belle transaction. Ils sont vraiment devenus notre équipe IoT. On a un des développeurs du temps qui est rendu dans le management team de Logien. Il y a une belle place à l'IoT chez Logien, puis c'est quelque chose que moi, j'aime beaucoup, puis je pense qu'il va être un vecteur intéressant pour nous pour la suite. Puis peut-être une des plus récentes qui est très intéressante, bien, c'est Poudre Noire. Tu sais, Poudre Noire, ce n'est pas une acquisition complète, donc on n'a pas acheté 100% des actions. On est partenaire avec Samuel et Arnaud, qui sont les deux fondateurs là, de Poudre Noire. Quand on a fait la transaction, Poudre Noire était environ 14-15 personnes, puis aujourd'hui, ils ont doublé en un an et demi.
Wow.
Comme quoi, un peu la vente qu'on leur avait faite d'un point de vue pourquoi venir chez Logien, tu sais, parce que je pense que c'est réciproque, là, il y a une vente des deux côtés à faire, bien, ça s'est avéré comme positif pour eux aussi. Puis ils ont grandi rapidement au sein de l'organisation, puis ils gèrent encore leur boîte, mais dans un écosystème qui est un accélérateur pour eux. Fait que pour moi, ça, c'est un beau succès parce qu'on a su les accompagner du mieux qu'on pouvait pour qu'eux entreprennent une croissance rapidement dans les mois qui ont suivi la transaction. Puis c'est ce qui s'est fait. Donc, c'est une belle transaction, je pense.
Je suis curieux, puis c'est très fascinant là, ce que tu dis là. Est-ce que dans les différentes acquisitions qui ont été faites, bon, tu le disais, certaines acquisitions des fois étaient surtout reliées au niveau des actifs de l'organisation acquise. Est-ce que le fait de donner et de laisser une indépendance à l'organisation acquise, c'est une vision que tu veux garder dans le futur? Parce que à un certain point, de ce que je comprends, les autres organisations, tu allais davantage, bon, bien entendu, chercher la base de clientèle, mais t'amenais le staff à l'intérieur d'un écosystème global et là, on s'intégrait à 100% dans Logien. La dernière est distincte. C'est quoi ta vision dans le futur par rapport à ça? On laisse-tu une indépendance ou on amène tous ensemble?
Écoute, c'est du cas par cas. T'sais, la réalité, c'est que nous, quand on fait une transaction, on regarde trois choses. T'sais, on regarde les clients, on regarde les talents, puis on regarde l'IP. T'sais. Des fois, il n'y en a pas d'IP.
Ouais.
Fait que ça se résume un peu à ça. T'sais. Fait que si les clients sont intéressants, bon, tant mieux. S'il y a de l'IP, bon, est-ce qu'il va nous permettre de lever du service, d'offrir davantage de services à nos clients? C'est ce qu'on regarde. Après ça, le plus important, bien, c'est les talents. Puis dans les talents, nous, on est en développement, mais il y a le core business, puis il y a le management, il y a le leadership. Si le leadership est fort et qu'il y a un ADN qui est propre à eux, c'est intéressant pour nous de les garder intéressés dans l'équité ou actionnaire de la compagnie parce qu'effectivement, ils vont pousser. T'sais, moi, je suis pas dans une mentalité de « il faut qu'on achète tout ». pense qu'à 100%, là, je veux dire, là, puis mm-hmm. être le seul actionnaire, c'est pas notre mentalité. La mentalité, je pense, de rassembler des expertises différentes, de les adjoindre d'un un core que je veux dire administratif commun, donc on sépare les coûts, ça coûte moins cher, mais tout le monde a sa propre expertise, puis un leadership fort pour la pousser au marché. Il y a de quoi d'intéressant, puis on rassemble tout ça en haut avec un comité de gestion. Fait que ça dépend, c'est vraiment du cas par cas, Antoine, les transactions. Je te parle juste de Poudre Noire, qui est une superbe organisation, honnêtement, avec une ADN ultra dynamique. Tu le disais plutôt, là, un petit peu plus proche du numérique. Donc, le géant est très TI. Poudre Noire est quand même plus proche du numérique, web, performance, puis aussi de la stratégie, tu sais. Fait qu'on a un des deux actionnaires, là, qui est Arnaud, qui est le président de Poudre Noire, qui pilote tout ce côté-là de la strat pour le droit d'organisation. Fait que c'est normal, je pense, que ces individus-là aient non seulement encore de l'équité dans leur boîte, mais également leur propre ADN, tu sais. Mm-hmm. Parce que c'est quand même différent du reste du groupe. Puis c'est pour ça qu'on travaille encore avec le nom de Poudre Noire, puis on a l'intention de le garder, puis ils ont leur propre ADN, mais au sein d'un écosystème un peu plus grand, tu sais. Fait que je pense que c'est comme un win-win là, à ce niveau-là.
Très intéressant. Financement, on peut être créatif. On peut être créatif dans des acquisitions d'entreprises. Il y a plein de manières de le faire. On peut injecter du capital, on peut aller chercher une certaine dette, on peut aller proposer des actifs existants qu'on possède à l'organisation acquise pour faire croître l'entreprise et par la suite aller chercher une équité un petit peu plus tard dans le processus. Il y a plein de manières de le faire. C'est quoi ta vision par rapport à ça? Dans les différentes transactions qui ont été faites, est-ce que ton modus operandi de financement a toujours été le même ou encore une fois, c'est du cas par cas et ça a changé d'une entreprise à l'autre?
Bien, c'est du cas par cas, mais je te dirais qu'il y a une chose qui reste, c'est que dans une transaction, je le disais tantôt, il y a une vente à faire aussi pour l'acquéreur. T'sais. Quand c'est une acquisition stratégique comme nous, notre modèle, c'est de dire à l'entrepreneur ou le fondateur à qui on achète l'entreprise, que ultimement, il va croître beaucoup plus rapidement au sein de notre organisation puis au sein de notre écosystème parce que on va pouvoir l'aider avec son recrutement, avec la finance, avec le marketing. Puis nous, on va lui dire, ben toi, focus-toi sur ton core business, tu sais, et on va t'aider à le scaler le plus rapidement possible en t'amenant d'autres expertises aussi puis te challenger sur comment vous faites les choses puis ensemble, on va le bâtir plus rapidement. Fait que si on est capable de bien faire cette vente-là au vendeur, ben on est capable de lui faire comprendre que dans une formule peut-être un petit peu plus de earn-out, admettons, il va obtenir un maximum de valeur dans notre écosystème versus stand-alone tout seul de son bord. Là, après ça, est-ce qu'il reste en équité ou il sort complètement? Ben ça, c'est du cas par cas, puis c'est une autre discussion. Mais je dirais, fait que de facto, il y a cette notion-là de bien vendre l'écosystème la plus-value, le géant, au vendeur. Et après ça, ben le reste, le financement, oui, effectivement, là, il y a toutes sortes de financements qui sont disponibles en ce moment, puis on va pas se le cacher, là, il y a de l'argent dans le système, puis le système offre de l'argent à des taux assez raisonnables en ce moment. Fait que nous, on a essayé d'autofinancer le plus possible nos transactions. Puis sinon, ben on va chercher de l'aide là, de certaines institutions là, avec la BDC en ce moment.
Il y a toujours eu de l'injection de capital?
Non, pas tout le temps. On en a autofinancé, effectivement, le plus possible. Je dirais, on les a tous autofinancés. Quasiment, là, à part les deux dernières, donc Abilis PI et Poudre Noire. Donc là, on a levé un montant avec la BDC pour se donner les moyens de nos ambitions, mais c'était pas nécessairement. C'était vraiment comme un montant global qui nous permettait de faire des acquisitions. Puis dans ce montant-là, on a utilisé une portion pour faire les transactions avec Poudre Noire, faire l'acquisition de Abilis PI. Donc c'est un peu ça, tu sais. Puis le modèle, il n'y a pas de secret. Tu sais, dans notre industrie, les multiples sont sur un BAIA. Donc, les gens vont acheter 6-7 fois le BAIA, 8 fois le BAIA. Tu sais, ça dépend des entreprises. Puis, on se dit, ben si je le paye, mettons, 6 fois le BAIA ou 7 fois le BAIA, puis je réussis à scaler la boîte, la faire doubler peut-être en 2 ou 3 ans, ben je viens de réduire mon retour sur investissement de la moitié. Tu sais, fait que si d'ailleurs suit, c'est 2 fois plus rentable, fait que ça se repaye en dans 3 ans. Fait que tu sais, c'est un peu ce mindset-là qu'on essaie de voir. Si la cible qu'on achète est hautement rentable et en croissance dans notre écosystème, on réduit le temps. Fait que ça, c'est vraiment l'aspect financier. Là, je te dirais qu'il y a beaucoup d'autres choses qui vont avec ça également. Là, tout l'aspect des talents, le cross-selling à nos clients, la taille aussi, tu sais, la crédibilité que tu gagnes de par la taille, que tu atteins un certain niveau, tu sais. Quand on était 30 dans l'organisation, on n'était pas appelé pour certains projets. À 150, 175, ben, tu commences à être appelé pour des projets plus costauds. Fait qu'il y a tout ça aussi qui est les éléments importants de cette croissance-là par acquisition qu'il faut garder en tête, puis ce qui justifie encore plus notre démarche, je pense.
Très intéressant. Disons qu'aujourd'hui, tu parles à un entrepreneur qui pense à commencer à se lancer dans ce processus d'acquisition d'organisation-là. C'est quoi que tu lui dirais? C'est quoi que tu dirais à Vincent il y a 7 ans de ça, mettons?
Ben, écoute, prépare le après. Tu sais, je l'ai dit un petit peu plus tôt, là, mais sincèrement, je le dis souvent quand j'ai des discussions comme ça sur le M&A. Puis, tu sais, surtout en service, préparer le après. Faites attention, c'est des êtres humains derrière ces chiffres-là. Puis le temps que vous passez en amont à préparer la transaction, c'est le bout facile.
Okay.
C'est le bout facile de s'entendre sur « ouais, ça vaut à peu près ça, on va le payer de cette façon-là, on va avoir du financement. » C'est facile. Le bout tough, c'est d'intégrer les gens, de leur vendre. C'est qui l'acheteur, c'est quoi l'ADN de la boîte, la vision, où on s'en va. Pourquoi c'est intéressant pour eux cette transaction-là? Oubliez-le pas, là. Aujourd'hui, les employés ont le choix de changer de travail, là. Comme ils veulent, c'est facile. Ils peuvent le faire super facilement. Fait que c'est pas à eux de suivre, c'est à nous à les convaincre que c'est mieux pour eux de suivre cette transaction-là. Fait que c'est vraiment sur le après. Le bout avant, pour moi, comme je l'ai dit, là, c'est le bout facile.
Intéressant. Je te posais des petites questions personnelles, Vincent. Est-ce que tu lis un peu? Est-ce que tu fais des lectures d'affaires?
Hey, c'est pas sexy comme réponse, mais je lis pas beaucoup. J'aimerais prendre plus de temps, comme je te disais avant la discussion. J'ai 2 jeunes enfants qui me prennent beaucoup de temps, puis je fais plein d'autres choses, mais je lis pas beaucoup. J'aimerais ça lire plus. Par contre, moi, je suis comme un curieux de nature. J'aime découvrir plein de sujets que je connais absolument pas. Quand j'accroche sur quelque chose, là, je démarre pas puis je vais lire tout plein de choses. Mais c'est pas nécessairement des livres, c'est de la recherche, c'est de comprendre un peu en arrière de chaque sujet. Là, puis c'est assez hétéroclite, mes affaires. En ce moment, on vient de faire une transaction personnelle, là, c'est pas avec le géant, mais dans le milieu du café, on a acheté des cafés, puis avec des amis. C'est un vieux rêve là, que je viens de réaliser. Puis fait que là, je lis sur le café, tu sais.
OK.
Je lis énormément ça en ce moment, puis je me renseigne, puis j'essaie de tout comprendre, puis de découvrir l'univers du café. Fait que je trouve ça super intéressant.
Je sais que t'es quelqu'un que tu me disais que t'es plus matinal, là, on en parlait un petit peu avant. T'as-tu des routines? Pendant le travail, après le travail, avant de travailler, est-ce que t'es quelqu'un qui suit certaines manières de fonctionner?
Ben nos routines ont été vraiment chamboulées avec la pandémie, hein, on se le cache pas là. Ouais. Moi j'avais l'habitude d'avoir des routines au travail, tu sais, d'arriver dans les bureaux, puis on avait des beaux bureaux, puis c'était le fun, puis tu sais tout le monde là, comme 1 an, 2 ans, tout le monde était bien fier des bureaux. Tu sais, aujourd'hui ça change un peu cette mentalité là forcément. Mais ma routine, c'est que tous les matins j'aimais ça moi faire le tour du bureau, tu sais, puis aller jaser au monde, puis aller prendre des nouvelles du monde, puis faire des blagues, puis jaser. Tu sais, j'aimais ça. J'aime mon monde. Là. J'aime les gens chez Logien. Fait que la pandémie va m'avoir vraiment fait mal par rapport à ça, tu sais, parce que on essaie de recréer ça virtuellement puis de faire des genres de... On a créé quelque chose qui s'appelle « La parole est à vous » chez Logien. Puis là, tout le monde, on va jaser. Il y a même des pauses café virtuelles où, tu sais, si tu veux te reconnecter, on essaie de stimuler un peu plein de... plein de ces touch points-là qu'on a pu, mais ça, ça faisait partie de ma routine avant. Je te dirais qu'en télétravail, ma routine passe de plus en plus par le sport. Là, maintenant, on s'est lancé un défi, quelques amis et moi, et on fait du sport tous les jours, tu sais, tous les jours depuis le 1er janvier. Donc, j'embarque sur le vélo le matin, idéalement, le matin, mais comme je te disais, avec les enfants, des fois, ça base. Fait que des fois, je le fais le midi. Mais tous les jours, là, minimum une demi-heure, puis quelques exercices alentour de ça. Mais ça, je te dirais que ça, c'est rentré maintenant dans ma routine, puis ça fait du bien.
Faut se réinventer un peu, on n'a pas le choix.
Ouais, exactement.
La vie a changé, faut se réinventer. Avant de te laisser filer, comment que les gens pourront en apprendre plus sur vous? Avez-vous des postes d'ouvert présentement? Peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent aujourd'hui qui aimeraient en savoir plus.
Ah ouais, écoute, on est dans une industrie en pénurie, hein, puis écoute, en ce moment, on a une vingtaine, trentaine de postes d'ouvert chez le géant. Écoute, on est en croissance autant organique que par acquisition. Donc, absolument, allez voir notre site web. Sinon, on a aussi une belle communauté sur toutes les plateformes là, de développement. Donc, on est quand même assez présent de ce côté-là. Si vous voulez en apprendre plus, même, n'hésitez pas à nous contacter. Tu sais, moi, c'est des choses que j'aime faire aussi personnellement. Là. Des fois, pendant 15 minutes, une demi-heure avec des gens à gauche et à droite dans l'industrie. C'est quelque chose que j'ai beaucoup fait au début, d'aller rencontrer des présidents des autres boîtes pour comprendre dans quelle industrie j'étais. On est dans une petite industrie, puis tout le monde finit par se connaître. Fait que si vous êtes dans l'industrie, vous voulez me faire signe, ça va me faire plaisir. Si vous n'êtes pas dans l'industrie puis que vous voulez en savoir plus sur le géant, absolument, allez voir notre site web ou écrivez-nous directement, puis ça va me faire plaisir de vous présenter un petit peu plus en détail qui est le géant, puis la belle grande famille qui la compose.
Merveilleux. Merci beaucoup, Vincent Gottschall. Ça a été très éducatif et fascinant, la discussion aujourd'hui. Moi-même, j'étais, quelqu'un qui écoutait attentivement là, tout ce que tu dis aujourd'hui. Je trouvais ça très intéressant. Et bien, pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissant. Comme plusieurs épisodes de Hypercroissance, j'ai été un spectateur attentif aux conseils de Vincent. Je teste moi-même présentement une croissance par acquisition et j'étais très curieux de voir les techniques que Vincent avait utilisées dans le passé. Ce qui m'a le plus marqué dans mon entretien avec lui vient du fait que l'après-transaction est beaucoup plus important que le avant. Également, on a lancé nos nouveaux médias sociaux pour Hypercroissance en créant des pages totalement séparés à J7 Media. On vous invite donc à nous suivre sur LinkedIn, Facebook et Instagram afin de voir de courts extraits vidéo de tous nos épisodes depuis le début. Sur ce, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.